Pascal CV.
Boulevard 101, sur l'heure du midi, c'est l'émission En Jase. Exactement 13h30 minutes, moins 7 degrés présentement au thermomètre. Ça va descendre jusqu'à moins 3, moins 10 degrés demain, quelques averses de neige. Averses de neige aussi pour aujourd'hui. Présentement, il n'y en a pas, mais c'est très nuageux, très couvert. Moins 18 samedi ensoleillé, moins 16 neige intermittente pour dimanche avec facteur de refroidissement éolien dans la nuit de samedi. Ça peut aller jusqu'à moins 40. Bravo à l'Aube-Rivière qui va offrir des services additionnels aux personnes itinérantes. Et pour les aider, on texte le 410-10. Ça fait un don de 10$ à la maison, l'Aube-Rivière. Ça va leur permettre, entre autres, de faire déjeuner toutes les personnes itinérantes en fin de semaine qui vont avoir bravé le froid. Ça sera vraiment pas facile pour eux. Petit élan de solidarité, guys. Parlant d'élan de solidarité, Mathias, on parle énormément de logement abordable, de logement social pour les gens ici à Québec, parce qu'on sait que le coût de la vie a augmenté en flèche et les familles moyennes ont de la difficulté. Le maire Marchand se pète les bretelles de 5700 mises en chantier, mais est-ce que ça va tout régler?
Bien, je veux dire, d'un certain sens, ce maire Marchand a raison. C'est excellent, puis c'est une bonne chose qu'il y ait des logements construits à Québec. Là, ça, tout d'abord, il faut le spécifier. Par contre, en ce moment, on se rend compte que peu à peu, peut-être que ça ne marche pas tant que ça, construire juste beaucoup de logements. On a un taux d'inoccupation qui est passé à 2,2%. Mm-hmm. Donc, un taux d'inoccupation qui est bien meilleur qu'il y a de ça. Un an, on était à moins d'1 % là. Moins d'1 % c'est vraiment dramatique.
Non, vraiment. Puis normalement, quand tu arrives à 3%, 4%, c'est ça. Là, normalement, ta ville va bien.
Par contre, malgré le fait que le taux d'inoccupation monte quand même, on a 6,7% d'augmentation au logement locatif pour la ville de Québec en 2025, ce qui est énorme. J'ai posé la question à Bruno Marchand, qu'est-ce qui explique ça? Voici sa réponse.
La hausse à Québec, sur toute valeur résidentielle, pas juste le locatif, mais aussi sur la vente de propriété, elle a été énorme. La progression des coûts ou des ventes a fait en sorte que on est un marché encore très attractif, mais on a rattrapé beaucoup d'autres grandes villes canadiennes qui étaient loin en avant de nous. La progression des dernières années, le coût, ça coûte plus cher. Il y a eu une progression du prix de vente, entre autres, et du prix du locatif. Dans le locatif, ce qui fait ce que vous mentionnez, qui dépasse le 3,1 % de la régie du loyer, c'est que tout le logement neuf vient influencer, alors que le logement déjà existant n'est pas à 6,1 % d'augmentation. C'est beaucoup la question du logement neuf et notamment la clause des 5 ans qui leur permet d'augmenter au-delà de la recommandation de la régie du bâtiment.
Oui, parce que moi, Mathias, je vois des tours à condo pousser, mais je me disais, hey, ces logements-là, c'est pas abordable. J'ai habité dans une tour à condo pendant un an, puis je vais te dire une affaire, j'ai payé très, très, très cher. Alors, il doit avoir quelque chose qui se produit quand même au niveau du coût de loyer moyen qui fait en sorte que même si on construit plus de logements, il est encore en augmentation, en très forte hausse.
Oui, c'est ça, parce qu'on parle d'un taux d'inoccupation qui augmente, mais le taux d'inoccupation pour des loyers de 1250 $ ou moins par mois reste à 1% présentement. Le taux d'inoccupation pour 1250 à 1500 $, c'est 2,6%. Puis à partir de 1500 $ et plus, c'est là qu'on tombe à 4,5%. Donc, le taux d'inoccupation pour des logements qu'on juge abordables reste bas. Par contre, il y a comme certaines théories que si on construit du neuf, ça devrait baisser le prix du marché en général. Ça devrait permettre des gens d'accéder à des loyers abordables plus facilement. Par contre, présentement, ben, c'est pas vraiment ça qui semble se produire, puis ça semble pas vraiment fonctionner. Je me suis donc entretenu avec différentes personnes dans le milieu, notamment Geoffroy Boucher, qui est économiste à l'Observatoire des inégalités du Québec. Puis j'ai posé cette question-là parce que on dit, du côté de certains économistes qui prônent la construction de logements, puis la construction de logements, puis on va rajouter du logement neuf, puis le monde pourra en se loger. On parle d'un effet cascade. Ça, l'effet cascade, c'est quoi? C'est que les personnes avec des meilleurs salaires qui habitent dans des logements moins chers, quand il y a des nouvelles constructions neuves, bien, ils changeraient de logement à ce moment-là. Par contre, ce qu'on nous dit du côté de Geoffroy Boucher, c'est que ça ne se passe pas exactement comme ça présentement.
Et là, selon ces personnes-là, ça ne serait pas grave si les développeurs construisaient uniquement des logements très dispendieux parce que, bon, les ménages mieux nantis prendraient ces logements dispendieux-là, puis par effet cascade, libéraient leur logement pour des ménages à revenus moyens et ainsi de suite jusqu'aux ménages à faible revenu. Mais dans les faits, c'est pas du tout ce qui se passe. En contexte là, d'incertitude économique, puis de hausse marquée du coût de la vie, les logements très dispendieux, ben ils demeurent vacants.
Oui, clairement, parce que le coût de la vie a tellement augmenté que si tu as encore ton logement, puis là, je donne un exemple, à 1250$, tu t'en départiras pas. Tu sais, l'épicerie a monté de 6,7%.
Oui, puis je veux dire, 1250$, c'est faut prendre en compte, ça reste cher pour un logement. Là, on ne s'en rend pas nécessairement compte parce que c'est 30% la cible environ pour le logement qu'on cible
de notre revenu. Oui.
Exactement. Fait que ça reste difficile à atteindre pour beaucoup de personnes, même ceux qui ont un salaire parfois meilleur. Fait que forcément, on garde ce logement-là. Mais là, l'autre questionnement que j'avais, c'était si on a des logements qui sont plus chers puis qui sont vides, qui commencent à être vides.
Le propriétaire doit baisser le prix.
Ben, c'est un peu ça la logique qu'on se dit. Du côté de Geoffroy Boucher, encore une fois, on nous dit que c'est pas vraiment ça qui se passe.
Il faut savoir que le logement lui-même, c'est un actif immobilier. Donc, même s'il n'est pas loué, il peut prendre en valeur. Donc, pour certains logements de luxe là, dans les grandes villes, à Québec, à Montréal, mais aussi ailleurs au Canada, il y a plusieurs logements de luxe qui sont complètement vacants. Mais ce n'est pas un souci, disons, pour les propriétaires ou les grandes entreprises qui possèdent ces logements-là, parce que la valeur de ces logements-là, l'actif, lui, augmente, même s'il n'y a pas de loyer qui vient avec.
Quand on parle d'augmentation de 7% sur une année sur du logement, bien, le propriétaire du logement, lui, simplement avoir ce bien-là en sa possession, bien, il a ce 7% %-là dans ses actifs d'augmentation chaque année. Fait qu'au final, même s'il loue pas son bloc, c'est le même principe si tu achètes une terre à bois, par exemple, puis tu fais absolument rien avec ta terre à bois. Mais ta terre à bois va prendre en valeur d'année en année, même si tu fais rien avec. Mais pour un propriétaire, c'est sûr qu'avoir un bloc complètement vide, c'est un peu ridicule. Mais qu'il y a quelques appartements un peu de vacants, de un, ça t'enlève de l'entretien, ça t'assure que tes appartements restent en bon état, et ton bloc prend quand même de la valeur. Donc, ça te force pas nécessairement à baisser tes prix pour
autant. En effet, il n'y a pas, sur sa marge bénéficiaire, il ne voit pas beaucoup de différence quand il y a un par-ci, par-là de libre. Donc, c'est pour ça qu'il ne viendra pas baisser le prix. Parce que baisser le prix, ben, peut-être bien qu'après ça, il va y avoir des rénovations qui vont être obligées d'être faites. Puis là, sa marge bénéficiaire, justement, va être réduite avec ça.
Exactement. Donc, eux autres, c'est vraiment à leur avantage. Puis, la question qui s'emmène, parce que là, on a eu le taux de régulation du tribunal administratif du logement qui est sorti cette semaine. On a mis le pourcentage d'augmentation recommandé à 3,1%. Ce qu'on voit dans la réalité, c'est que ce taux-là, il n'est pas nécessairement respecté parce que c'est une recommandation. Et justement, je me suis entretenu avec Émile Boucher, qui est du regroupement des comités de logement et d'association des locataires, qui nous dit que ce chiffre-là, c'est pas vraiment des plafonds puis que justement, ils ne sont pas souvent respectés.
Les propriétaires n'ont pas nécessairement à le respecter. La grande majorité des hausses de loyer au Québec sont négociées entre le propriétaire et le locataire. Et pour nous, c'est négocié de manière un peu asymétrique. Donc, les propriétaires ont le plus beau rôle, puis c'est plus facile. Ils ont plus d'informations en main, puis ils ont plus de leviers. Et c'est ce qui pose problème. Donc, c'est pour ça que peu importe les indices qui sont recommandés par le TAL, bien souvent, ce qu'on constate sur le terrain, ce que les locataires vivent, c'est des hausses beaucoup plus élevées.
Oui, puis en plus, si on regarde ce que le TAL a fait dans les deux dernières années, c'était au-delà de 5% l'an passé, là, 3,1%. Puis les gens sont tellement prisonniers présentement de la crise du logement qu'ils sont prêts à accepter des hausses plus grandes qu'à la normale.
Dans les 3-4 dernières années, on parle des plus grosses augmentations dans les 25 dernières années par les recommandations du TAL, tout simplement. Mm-hmm. Ça reste qu'un locataire, par exemple, tu reçois ta hausse de loyer. Tu as 30 jours pour répondre, tu peux refuser la hausse. Ça se fait. C'est juste la question souvent qui se pose, c'est « veux-tu m'embarquer dans des négociations avec mon propriétaire, aller devant le tribunal? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie à fournir? »
J'ai-tu le temps? J'ai-tu cette énergie-là à fournir? Et est-ce qu'il va m'arriver quelque chose après? Parce que malheureusement, dans l'actualité, on en a vu des propriétaires après ça trouver des excuses pour évincer des locataires.
Parce que j'ai pas le chiffre pour 2025, mais en 2023, l'augmentation moyenne lorsqu'on changeait de locataire, c'était 18%.
Aïe, 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 c'est payant changer de
locataire. Ben oui, c'est ça. Fait que les propriétaires, présentement, un locataire qui pourrait être un peu plus tannant, qui dit « Hey, je m'en vais, j'imite ta hausse », ben il pourrait dire « Je trouve un moyen d'évincer, puis par la suite, je grimpe ça à 20% pour lui qui s'en vient après. »
C'est clair. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des investissements du gouvernement du Canada via le programme Maison Canada hier. 1 milliard, et cet investissement-là va se faire sur les infrastructures souterraines, égouts. Donc, ça va permettre aux municipalités, après ça, de construire des logements plus abordables et des logements sociaux.
Oui, exactement. Puis on va... Le fédéral veut construire plus de logements sociaux par Maison Canada. Il y a eu une entente hier de collaboration avec la province de Québec qui permettra de mettre en place des ententes un peu partout au Québec en termes de logements sociaux qui seront subventionnés par le fédéral. Maison Canada qui a présentement une enveloppe de 13 milliards de dollars pour tout le pays. On aura également des investissements privés, des investissements provinciaux, mais une chose est sûre, présentement, on semble avec mes discussions avec Geoffroy Boucher ou encore Émile Boucher, on semble arriver avec deux types de solutions. Plus de logements sociaux, forcément pour baisser le prix du marché, ou encore du côté du regroupement des comités de logement et de l'association des locataires. Ce qu'on demande, c'est que le TAD mette un pourcentage qui doit être respecté, un plafond de pourcentage. Mm-hmm. Tu ne peux pas augmenter
qui doit
au-dessus
être respecté.
De ça. Forcément, il pourrait avoir des exceptions en cas de rénovation si on fournit des factures. Mais sinon, voici le pourcentage. Tu ne peux pas aller au-delà de ça.
En effet, ça va de pair avec le texto de Jeff qui vient de rentrer au 418-971-101 qui nous dit « Faites attention parce que dans la réalité, le problème, c'est souvent plus haut que ce que le TAL a décidé en raison justement des taxes municipales, taxes scolaires, des assurances, des travaux majeurs. »
Oui, puis je veux juste rajouter un dernier point. Là. Je tiens à dire, c'est pas de la faute des propriétaires non plus. Je veux dire, le coût de la vie augmente sur eux. Puis je veux dire, eux autres, au final, le but, c'est de faire du profit. Il faut penser à ça également. Mais c'est sûr qu'avoir des augmentations de 20% pour certains logements, ça pourrait être intéressant de mettre des réglementations un peu plus strictes.
Clairement, puis ça appartient justement à nos paliers de gouvernement de les aider là-dedans aussi, pour que les logements demeurent abordables. Mathias, excellent dossier. Good job. Tu nous as vraiment bien résumé ce qui se passe en logement à Québec et on va continuer à suivre ça très attentivement. Après la pause, on termine notre dossier sur les cégeps. Il n'y a pas juste Québécois qui faisait ça. Il y a l'émission On en jase aussi. Et on va s'entretenir avec Isabelle Morin, professeure de sociologie au cégep Limoilou, qui lance ce soir son tout premier livre, Ma vie de cégep. On va parler des défis des étudiants au cégep à l'heure actuelle. Il y en a énormément, notamment le côté monétaire. Je pense que tu le sais, Mathias, c'est aux études à l'Université Laval. C'est pas facile.
Non, effectivement.
On parle de ça. On en jase après cette courte pause sur Boulevard 101.